Le dossier du jour. Emmanuel Bois.
Bonjour, nous nous retrouvons en compagnie de Stéphanie Land, directeur du service du patrimoine de la ville de Laval, pour le troisième épisode de cette mini-série consacrée à l'histoire de la place du 11 novembre à Laval. Hier, nous étions retombés dans les marécages autour de cette place et aussi de la construction d'un ouvrage remarquable, notamment l'hospice et la chapelle Saint-Louis. Aujourd'hui, autre réalisation remarquable, la construction d'un lieu de commerce, mais très spécialisé puisqu'il s'agissait d'une halle aux poissons. Pourquoi cette spécialisation ?
Voilà, spécialisation qui a été voulue par la municipalité lavalloise en 1731. Ceci pour répondre en particulier aux plaintes récurrentes des riverains. Il faut bien imaginer que depuis la fin du Moyen-Âge, la halle est située en plein cœur de ville, au niveau de l'actuelle place de la Trémoille. Alors il faudrait plus précisément la positionner aujourd'hui entre la place de la Trémoille et la place des Acacias. Voilà, donc on a une grande halle médiévale, un petit peu à l'image de celle qu'on peut encore voir aujourd'hui à Cran, à Saint-Denis-d'Anjou. Et on doit faire face à une problématique, c'est l'afflux régulier de poissons. Et qui dit poisson dit naturellement des odeurs pas forcément agréables qui titillaient les narines des Lavallois, d'où des plaintes qui remontaient jusqu'à la municipalité. Et au grand mot, les grands remèdes, on décide de créer une halle aux poissons. Voilà. Et on va venir la positionner à proximité de personnes qui n'auront pas l'audace de se plaindre. Bah, ce sont les mendiants, les nécessiteux, ceux qui avaient été installés à l'hospice Saint-Louis. Voilà, sur la place dite de la Chiffolière. Et donc concrètement, en 1731, on va construire à proximité de l'hospice une halle de forme circulaire, présentant un plan très pratico-pratique, dirons-nous, une galerie périphérique, un toit incliné vers l'intérieur, ce qui permettait naturellement, avec l'eau de pluie qui ruisselait, de venir nettoyer le pavé. Et puis ça permettait, de faire l'économie d'un tout à l'égout, hein, parce que la rivière passe à proximité. Donc naturellement, tout ça s'écoulait dans la rivière. Cette halle va disparaître également, elle, victime des grands travaux napoléoniens du début du 19e siècle. Elle n'a pas été retrouvée lors du diagnostic archéologique de l'année passée, mais il faut imaginer qu'elle est très probablement positionnée au niveau de la chaussée actuelle, entre la place du jet d'eau et le parvis de l'hôtel de ville. Voilà. Et comme on n'a pas fouillé ce secteur-là, concrètement, je pense qu'elle est encore à découvrir.
Eh bien, ça pourrait donner des idées pour les futurs aménagements de la nouvelle place du 11 novembre, puisqu'il y est prévu d'y reconstruire un îlot commercial. D'autres habitations sont venues aussi se greffer au bord de l'eau, qui est aujourd'hui maintenant l'îlot Gambetta, on va dire.
Ouais, alors l'îlot Gambetta, là où se trouve aujourd'hui notamment la trésorerie générale du pays de Laval, le Cinéville, particulière, est toujours bon de rappeler, même si ça surprend les Lavallois. Aujourd'hui, cet îlot, il est sur la rive droite. Voilà. Bah, pendant très très longtemps, il était sur la rive gauche, puisque la Mayenne passait de l'autre côté. Et cette rive, on le sait, sous l'Ancien Régime, elle est plutôt dévolue aux usages de l'industrie textile. Et quand je dis l'industrie textile, alors il faut bien imaginer qu'il y a des secteurs de la ville où on va voir se développer les petits hameaux de tisserands, ceux qui sont à la base du travail de la toile de lin. Et puis, bah, vous connaissez sans doute l'existence des beaux hôtels particuliers de ces messieurs de Laval, ceux qui ont fait fortune dans l'industrie de la toile et qui, eux, vont plutôt venir occuper les hauteurs de la ville. Donc, Bel Air, d'un côté, Le Gars, à proximité de la salle polyvalente aujourd'hui, de l'autre. Et puis, bah, y a aussi, j'allais dire, la strate intermédiaire, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'entre les riches négociants et les pauvres tisserands, il y a une strate intermédiaire, et cette strate intermédiaire, elle est matérialisée par la présence, sur la rive gauche de la Mayenne, de 16 établissements de blanchisserie. Donc on va dire les blanchisseurs constituant la classe moyenne de cette industrie textile. Et ces gens-là, ils s'installent sur la rive gauche de la Mayenne parce qu'ils ont besoin de la proximité de la rivière, parce qu'au-delà de leur maison de maître qu'ils vont faire construire, dire bah il faut concrètement un arrivoir pour qu'on puisse avoir accès à l'eau de la rivière. Il faut un bâtiment de calandre pour permettre de lustrer les toiles. Il faut également de grandes prairies, les fameuses prairies de blanchiment qui étaient plantées de piquets sur lesquels on dressait ensuite la toile afin de la faire blanchir à la lumière du soleil et de la lune. Et donc concrètement, lors du diagnostic archéologique effectué par l'équipe de Samuel Chollet l'année passée, eh bien, au niveau de l'allée de Cambrai, juste devant l'entrée du trésor public, eh bien, on a retrouvé les vestiges très imposants de la blanchisserie de Leclerc de la Jubertière, voilà, qui était un maître blanchisseur à la veille de la Révolution, et qui s'était fait construire ici, alors quand je parlais tout à l'heure de classe moyenne, tout est relatif, une belle maison de maître d'une surface de 270 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal pour l'époque, avec un sol en carreaux de terre cuite qu'on a retrouvé, un escalier en vis, en arrière de parcelle. Enfin, voilà. Donc ça prouve un petit peu quel était le standing également de ce personnage.
Bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, nous quitterons le 18e siècle et demain, nous nous retrouverons au 19e avec les grands travaux napoléoniens et bien d'autres aménagements qui ont révolutionné la place du 11 novembre. On se retrouve donc demain pour notre 4e épisode. Stéphanie Lan, merci. À demain.